Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex, ça va ?
Oui, pourquoi ?
Bah, tu t'es remis de l'invité d'hier, je veux dire.
Oui, oui, bien sûr.
Parce que t'étais hyper content de la recevoir.
Oui,
quand même.
Enfin, j'étais pas le seul.
Mais qui êtes-vous ? Je vous laisse nous le dire, vous êtes ?
Bonjour, je suis Sheila. Normalement, ils font ça pour Bruel.
On s'en fout de Bruel.
Bah, et comment veux-tu que Patrick Bruel ait envie de venir maintenant?
Mais c'est pas contre lui, mais c'est Sheila, quoi. C'est...
Tu vois, j'avais raison, c'était toi le plus à fond.
Oui, sans doute, mais fallait pas lui dire, voilà.
Ah bah, je l'ai dit. Alex Vizorek. Oh là là, il est hyperventile et qui
Normalement, je suis amoureux de Michel Thor, mais maintenant que vous êtes là, je suis troublé. Je suis troublé.
Il était troublé.
Mais oui, bah, j'espère que Michel Thor a pas écouté l'émission. Parce que
j'espère pour toi.
Bah, pourquoi?
Tu nous as quand même fait une sortie exceptionnelle en fin d'émission.
Alors là, je vois pas de quoi.
Tu vois très très bien l'affaire du disquaire.
Vous allez chez votre disquaire et vous lui demandez, dites-moi aujourd'hui.
Il y en a encore des disquaires?
J'espère.
Non, mais de quoi tu parles? T'es sûr que tu vis sur cette planète?
Non, il vit à Windsor. C'est ça.
Juste
après être sorti de la cabine téléphonique.
Oui.
Est-ce que vous mettez un chandail et que vous allez chez le disquaire?
Je mets un chandail.
Voilà. Bon, c'est pas très club ce que vous avez fait. Bon, voilà, je tiens à le dire.
Pour rire.
Oui, enfin, tout le monde s'est moqué, même Sheila.
Surtout Sheila.
Oh, ça va.
Ah, franchement, il y a que moi qui ai pas mis d'huile sur le feu.
Ah, il y a que toi. Bon, on va peut-être écouter la suite de la séquence.
Vous cherchez sur Minitel les chanteurs sur Minitel? Vous juste.
Après avoir envoyé un télégramme.
Franchement, c'est d'ailleurs le grand drame du disque.
Mais
qu'il y a plus de disquaire.
Et quand j'essaye de le réhabiliter, tout le monde se moque.
Allez Alex.
Mais ça m'a beaucoup attristé votre comportement.
Mais
voilà.
C'était mignon.
Oui, c'était mignon, c'est ça. Bon, tu sais quoi, je vais faire des courses, ça va me détendre.
Ah ouais, tu vas faire des courses chez Prise Unique. Bonjour la France Inter, vous écoutez la jeune pousse qui s'épanouit dans le potager de Radio France. Et voici les trois informations qu'il ne faudra pas oublier d'arroser d'ici 18h. Le président est à la une de Forbes, le magazine économique américain, où Macron est le leader of the free markets, le chef du marché libre. Et dans le magazine, il fait encore un petit bisou aux riches en annonçant la fin de l'exit tax.
Il me semble qu'il y a comme une erreur. J'ai plus d'argent qu'avant.
Ce sont les plus-values de vos placements.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre.
Pardon.
Les bobos, c'est déjà ringard. Aujourd'hui, les bourrus vont plus loin. Ce sont ces bourgeois ruraux qui quittent la ville pour partir planter des choux et retrouver le sens de la terre.
C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas... Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe.
Le palais de Tokyo organise une visite naturiste. Demain matin, on peut visiter le musée tout nu. Toutes les places ont déjà été vendues en une seule matinée. Donc il y a une vraie demande de nouvelles expériences artistiques ou sensorielles. Tu
trouvais pas ça bizarre? Quand se touche les hommes, on parle de Picasso. Non.
Si, je vous le confirme. Voilà, lui, son processus créatif.
Oui, sans transition. Hein.
Voilà,
oui,
Alex Vizorek.
Bonjour, Charlotte Van Denkers. Déjà excité à l'idée de traiter ce sujet 3. Autour de la table, une belle équipe en ce vendredi à 17h20, celle qui est la chroniqueuse préférée de Jean-Marie Le Pen. Et ça, c'est le gros avantage de la radio. C'est Rukia Tawedraogo. Bonjour.
Bonjour, Alex.
De quoi on va parler ?
Bonjour Charline, bonjour tout le monde. L'actu du jour, c'est la fête à Macron qui se prépare pour demain. Mais moi, je voudrais revenir sur une info de la semaine dernière, la mise en examen d'un grand quelqu'un français au sujet de petits arrangements entre amis.
Tiens, qui ça peut bien être? À 17h30, on pourrait penser que la mort est enfin un repos éternel. Eh bien non, car il est possible qu'une journaliste suisse vienne quand même vous emmerder. N'est-ce pas Christine Gonzalez? Bonjour.
C'est moi, ah, oui, bonjour. Reportage tout à l'heure dans un tout nouveau bistrot à la mode dans l'au-delà, avec un guide de qualité Bourville.
Je vous parlerai de la ligue anti-alcoolique.
C'est important. Sans transition, à 17h40, si le grand n'importe quoi était une discipline olympique, on aurait une vraie chance de médaille. En la personne de Thomas VDB, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour à tous. Moi aujourd'hui, je vais tout simplement, oui, vous parler des nouvelles façons de faire régner la justice.
Mais très bien. Voilà, tout vous attendez beaucoup là-dessus. Et à 17h55, l'homme qui fait chanter la France, et pourtant il ne demande jamais de rançon, c'est Frédéric Fromet qui viendra mettre l'actualité en musique.
Et je me tourne vers celui qui va lancer le process de cette émission. Vous étudiez dans les écoles polytechniques de Toulouse et de Sao Paulo au Brésil et vous devenez ingénieur chimiste. Mais contre toute attente, vous commencez par éditer une collection de supports éducatifs sur le développement durable. Puis après la lecture d'un livre, Biomimétisme, de Janine Benyus, dit-on, c'est la révélation, l'agriculture est la clé contre le dérèglement climatique. Vous passez un brevet de responsable d'exploitation agricole et vous vous lancez dans la permaculture. Vous créez l'association Ferme d'Avenir. Est-ce que j'ai bon? Est-ce que vous êtes bien? Rappelez-moi votre nom.
Maxime de Rostelan.
Oh, mais oui, c'est lui.
Bravo. Par Jupiter, Charline Van Macker, Alex Pizorek. Sur France Inter.
Bonjour Maxime de Rostelan.
Bonjour.
On est très heureux de vous recevoir parce que vous changez le monde.
On essaye.
Eh oui, vous essayez, vous, de changer le monde. On va expliquer comment. D'abord, vous êtes le fondateur de Ferme d'Avenir, une association qui encourage la transition écologique pour les agriculteurs, qui pratique la permaculture et le biomimétisme aussi.
Oui, le fait de s'inspirer de la nature.
Exactement. Alors, pour ceux qui ne savent pas très bien ce que ça peut être la permaculture, le biomimétisme et en quoi ça peut nous sauver, je vous laisse expliquer.
Alors, l'idée, c'est juste que le vivant a 3 milliards 800 millions d'années d'expérience, est beaucoup plus efficace que nous, et nous, on est là depuis... Enfin, on a découvert le pétrole il y a 150 ans, et on fait reposer tout notre modèle sur cet or noir qui est épuisable. Et quand on regarde dans la nature, on constate qu'elle a réussi à développer des technologies hyper efficaces qui ne fonctionnent qu'avec l'énergie du soleil, qui ne savent pas produire de déchets, et qui sont surtout résilientes. Et on serait bien inspiré de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et la permaculture, c'est un peu le même principe appliqué à l'agriculture. On regarde comment fonctionne un écosystème naturel, une prairie, une forêt, on voit que c'est beaucoup plus productif sans intrants, sans irrigation, sans énergie autre que celle du soleil, sans déchets, sans chômage même. Donc ça fonctionne beaucoup mieux et aujourd'hui notre agriculture est quand même dans une impasse et la nature a beaucoup de choses à nous
donc
apporter.
Donc c'est plus rentable aussi. Alors vous ça, dites, parce que c'est ça la vraie question de notre belle société.
Est-ce que c'est, pour dire que c'est plus rentable, il faudrait déjà que l'agriculture soit rentable. Aujourd'hui elle ne l'est pas et elle nous coûte très cher. Le modèle agricole industriel nous coûte très cher, que ce soit en dépenses de santé, en chômage induit, en érosion de la biodiversité. On ne sait pas combien rapportent les vers de terre, mais on sait quand même qu'il y a 52% des animaux sauvages qui ont disparu en 40 ans, 30% des oiseaux, 80% des insectes en France. Donc c'est beaucoup, on ne sait pas combien ça nous coûte, mais ça nous coûte très cher. Et effectivement, l'agroécologie, le fait de travailler avec les forces du vivant et pas contre elles, c'est beaucoup plus logique, beaucoup plus stratégique pour des petits humains que nous sommes. Et en fait, il y a toutes les clés dans la nature et il faut travailler avec les forces de vivre.
Et ça, on le comprend très bien en voyant un film, un documentaire d'Hélène Médic qui s'appelle « On a 20 ans pour changer le monde », qui est déjà en salle, et que je vous recommande chaudement parce que vous expliquez très bien ce que vous venez de nous dire, mais on le voit, on voit par exemple quand vous allez voir un agriculteur qui fait de l'agriculture conventionnelle et que vous essayez de convaincre pour qu'il passe à une transition écologique et qu'il vous montre ses tracteurs, combien ça coûte un tracteur, combien il dépense
d'énergie en
gasoil.
Alors déjà, moi, agriculture conventionnelle, je vous invite à ne plus dire ça parce qu'on n'a pas signé de convention. Disons agriculture chimique. Agriculture chimique est surmécanisée. Mm-hmm. Et en fait, ce qui est poignant dans ce témoignage, c'est que donc Vincent Louot finit par dire, en fait, on a perdu, et il cherche ses mots, il dit, on a perdu le sens. En fait, lui, il produit des céréales, il sait pas où ça part, il sait pas où c'est vendu, en fait, il sait pas trop pourquoi il travaille. Et en fait, il constate que, socialement, il commence à se faire accuser par beaucoup de citoyens, de consommateurs, que dans son champ, il y a de moins en moins d'oiseaux, qu'il y a des plantes qui résistent à tout, et donc, du coup, effectivement, il est en train de se dire, comment je fais, quoi.
Et ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui commencent à prendre conscience et qui peuvent se tourner vers vous, vers Ferme d'Avenir pour...
Et bien d'autres. Énormément d'associations sur les territoires. Il y a le réseau Impact, les ADAR, les CIVAM, les GAB, etc., qui sont des acteurs qui, depuis des années, font qu'aujourd'hui, on n'est pas à zéro en termes d'agriculture bio. Maintenant, il faut juste passer la seconde et commencer à faire en sorte que l'agriculture biologique, écologique, devienne la norme.
Et c'est essentiellement par là qu'on peut changer le monde.
Bah, en tout cas, c'est un des premiers pas. Ouais.
Thomas VDP.
Mais c'est vrai que c'est fou parce que je vous entendais dire on ne peut plus dire agriculture conventionnelle. Et c'est vrai que ça me fait tilter que depuis des années, on appelle ça agriculture bio. Pour parler de l'agriculture saine, on va dire, c'est hallucinant de se dire qu'il y a 200 ans ou 300 ans en France, l'agriculture bio, c'était l'agriculture normale. L'agriculture d'aujourd'hui, on devrait appeler ça l'agriculture chimique. Oui, voilà, c'est ça. En fait. L'agriculture normale aujourd'hui, c'est la chimique, et la bio, c'est la naturelle qu'on faisait il y a 50 ans.
Carrément, il y a pas mal de gens qui demandent à ce qu'on arrête de noter AB sur les bons produits et qu'on mette AC, agriculture chimique, sur les mauvais produits. Comme ça, à la limite.
Ah bah, c'est déjà un premier pas, c'est de parler d'agriculture chimique, on va le faire dans cette émission.
Et le consommateur, il peut, comment dire,
dire être le... Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, comment ils choisissent, si... même financièrement, parce qu'il y a toujours ce problème-là.
Bah, trois fois par jour, ils votent, hein, en choisissant ce qu'il met dans son assiette. Et effectivement, on espère que le mouvement qui est déjà vachement prégnant, hein, puisqu'il y a 20% d'augmentation de la demande en bio local chaque année, alors que, entre parenthèses, il n'y a que 10% de l'augmentation de l'offre en France. Donc, il y a une autoroute pour les entrepreneurs qui veulent travailler dans ce secteur. Et donc, il y a une grande augmentation de la demande. Ça coûte un peu plus cher, mais il suffit de manger mieux, de manger un peu moins de viande. Hein, d'ailleurs, si on diminue de 20% sa consommation de viande, à budget égal, on passe en bio tout son panier.
C'est un bon chiffre.
Et vous aurez envie de changer de consommation aussi quand vous verrez ce film « On a 20 ans pour changer le monde ». Et il y a aussi le livre écrit par Maxime de Rosteland, donc le fondateur de Ferme d'Avenir. On a 20 ans pour changer le monde. Enfin, maintenant 19, parce que vous dites que ça fait un petit moment. Voilà. Et vous dites, bonne nouvelle, c'est possible. C'est paru chez Larousse et je vous le recommande également tout à fait chaudement. Maxime de Rosteland est avec nous jusqu'à 18h. In a few weeks, I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. Il s'appelle Two Doors Cinema Club, programmation musicale Djoubaka. Vous êtes sur France Inter par Jupiter. Et c'est Maxime de Rosteland qui est avec nous aujourd'hui, un jeune qui change le monde. Il a fondé Ferme d'Avenir sur la permaculture. Il y a un documentaire qui explique bien le travail de toute cette association et de la transition écologique et de la difficulté de se confronter au temps long avec les politiques. C'est un film qui s'appelle On a 20 ans pour changer le monde, qui est déjà en salle. Et il y a le livre aussi, si vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir au cinéma, c'est On a 20 ans pour changer le monde, paru chez Larousse. Et pour entourer Maxime de Rosteland,
Pas mal de monde, figurez-vous. Il y a Rukia Widrogo, il y a Christine Gonzalez et il y a Thomas VDB.
Et un petit peu d'actualité. Hein. Maxime, vous êtes au taquet hein, quand même là-dessus. Hein. C'est parti.
The greatest jobs president that God ever created.
The Journal of presque 17h17.
Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.
I tell you that.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron l'a assuré, il n'y aura aucune indulgence pour les casseurs.
Sauf pour les casseurs de modèles sociaux, évidemment.
Des élus américains proposent le nom de Donald Trump pour le Nobel de la paix 2019.
Si Trump obtient le Nobel de la paix 2019, je propose Bachar el-Assad pour le Nobel de chimie 2019.
Et des brèves.
Oui, bien sûr, parce que ça, inévitablement, un jour, je vais le choper, le Nobel de littérature.
Il n'y en a pas cette année, heureusement.
Oui, mais c'était le mien. Commençons par cette nouvelle décision fiscale du président.
Oui, Emmanuel Macron veut supprimer l'exit tax qui luttait contre l'évasion fiscale.
Oui, Macron et son gouvernement, ils sont quand même beaucoup plus sympas avec ceux qui veulent quitter la France qu'avec ceux qui aimeraient y venir.
Et pour le ministre de l'économie, oui, Bruno Le Maire, cette suppression de l'exit tax va créer de l'emploi pour tous les Français.
Voilà, c'est comme si un mec disait à sa femme, chérie, laisse-moi baiser ailleurs, ça fera de l'entraînement quand je vais revenir, je vais mieux jouir avec toi.
Durcissement toujours.
Oui.
Emmanuel Macron a assuré qu'il n'a aucune indulgence pour les casseurs.
Alors, les casseurs, si vous écoutez, j'ai une astuce. Ouvrez un compte en Suisse, hein, il sera indulgent avec vous.
Allez, passons à gauche.
Oui, Benoît Hamon était sur France Info ce matin et il a commenté le succès en librairie de François Hollande.
J'aurais préféré qu'il ait plus de succès politique qu'il n'a de succès en librairie.
Et blaah ! C'est sûr que si Benoît Hamon publie un livre à son tour, ce ne sera pas trop difficile qu'il ait plus de succès en librairie.
Et une petite pensée pour Christine Goutin.
Oui, qui elle a eu le même succès en politique qu'en librairie, puisque je vous rappelle qu'elle a vendu 38 exemplaires de son livre à l'époque.
International, oui, une statue de Donald Trump, oui, nue, oui, vendue aux enchères pour 28 000 $.
Oui, c'est marrant, d'habitude, c'est Trump qui paye pour se foutre à poil. Mais
ça, 28 000 $
28 000, oui. Alors, je suis pas certain qu'il soit très heureux parce que j'ai fait le rapport prix masse volumique, ça nous met la teub à 40$. Donc c'est pas énorme.
Sans aucune transition possible, non. Culture, oui. Avec une aquarelle d'Hergé, le père de Tintin, vendue 600 000 euros aux enchères.
Je dis même plus, une aquarelle d'Hergé, le père de Tintin, vendue à 600 000 euros aux enchères.
Merci, cher Dupont.
C'était une blague par rapport à Dupont.
Dupont avec T. Bah oui, merci. Sport.
Oui, pardon. Sport, hier soir, leur club s'est qualifié, Marseille, mais des supporters de l'OM ont été agressés par des hommes cagoulés dans un bar à Paris.
Et selon eux, une vingtaine de personnes les ont attaqués dans l'établissement.
Alors ça reste des Marseillais, donc à mon avis on peut estimer les agresseurs à 2 ou 3, mais ça reste inadmissible tout de même.
Bien sûr, sport toujours avec l'ancien footballeur Vicente Lizarazu, qui est atteint de bigorexie, c'est une maladie qui est en fait une addiction au sport.
Je ne cache pas que je l'ai découverte, hein, cette maladie, mais je ne suis pas médecin, mais à mon avis un vaccin existe, injecter quelques gouttes de sang de François Hollande, et je pense que ça ira beaucoup mieux.
Allez, bref.
Oui, alors les brefs, je les échange aujourd'hui contre un beau moment de radio. Jean-Jacques Bourdin, l'homme qui interview les présidents, les hommes forts hein, de ce pays, il sait faire avec tout le monde. 6h40 sur RMC.
Allô,
bonjour Jana.
Bourdin.
Bonjour Jana.
Comment ça va?
Eh ben ça va et toi?
Oui, ça va très bien.
Ça va très bien. Tu es où? Tu es au Penmire, dans les Bouches-du-Rhône, hein, c'est ça?
Au Penmirabeau, oui.
Bon.
Voilà, Jana, 8 ans au Penmirabeau. Nicolas Demorand, l'auditeur de demain, il écoute RMC, merde. Mais il faut savoir la pâter, alors écoute ça. Petite leçon d'interview, école des fans, Jean-Jacques Bourdin.
Comme mal au travail, je vais à la peinture avec Manier. C'est Yolande, celle qui boit les cafés.
Ah, d'accord, elle boit le café, mamie. Elle aime le café, hein. Elle avait gagné la machine à café, je crois. C'est Yolande, ta grand-mère.
Oui.
Ouais, que tu aimes, hein.
Elle vous fait de gros bisous.
Voilà. Bah moi aussi, je lui fais de gros bisous. Et tu permets que je lui fasse de gros bisous, Jana?
Et elle a dit, allez l'OM.
Et elle a dit, allez l'OM. Hein, bah dites-moi alors. Évidemment, c'est génial.
C'est génial, je vous l'ai fait en résumé, hein, parce que c'est bien long. Sous vos applaudissements.
Amis du populisme, bonjour, vous êtes revenu sur France Inter et notre invité c'est Maxime de Rosteland qui change le monde avec ses fermes d'avenir et on va parler de ce premier sujet avec vous. La fête à Macron lancée par François Ruffin c'est demain mais on peut l'amorcer un petit peu aujourd'hui avec cette nouvelle mesure favorable aux plus nantis, la suppression de l'exit tax. C'était donc un impôt sur la plus-value réalisée sur les reventes d'actions. Au moment où on se barre de France, au moment où on établit sa résidence fiscale hors de France. Donc l'idée, c'est d'envoyer un signal positif aux grands patrons pour, paraît-il, leur donner envie de revenir s'installer. Parce que si on dit, bon, si tu pars, c'est pas grave, ça donne plus envie, paraît-il. Bon, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, le président l'a annoncé dans Forbes, le magazine qui dresse chaque année la liste des milliardaires de la planète.
Cette année, on estime que comme Alain, plusieurs centaines de gros actionnaires ne toucheront aucun dividende.
C'est pour ça que nous avons créé les dividendes du cœur. Car aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir rien.
Je ne sais pas, il y a 100, peut-être 200 000 euros. C'est sûr que c'est pas comme d'habitude, mais enfin, ça dépanne un peu.
Soirée spéciale, les dividendes du cœur. Après l'émotion des bénévoles sur le terrain, assister au spectacle qui finance leur action, le fabuleux concert des enfoirés. Avec les plus grands noms du capitalisme français, des duos inédits comme Carlos Ghosn et Arnaud Lagardère.
Les guignols, bien sûr. Alors, Maxime de Rosteland, vous avez reçu le candidat Macron dans une ferme d'avenir. C'est celle que vous cultivez, en réalité.
Celle qu'on a créée.
Ouais. Ouais, exactement.
Enfin, je ne le cultive plus dessus, mais...
Parmi les aristos et les riches, il y a des gens bien. Il y a notamment, mais si, Louis-Albert de Broglie, qui s'appelle le prince jardinier, qui vous a confié 1,5 hectare près de son château de la Bourdaisière pour que vous puissiez in situ prouver que l'agroécologie est plus rentable que l'agriculture chimique. Voilà, donc on le salue et c'est comme ça que vous avez commencé. Alors, vous qui prenez l'environnement et le social, comment vous vivez de ne pas recevoir vraiment de signaux sociaux et sur l'environnement, il y a beaucoup d'implications, semble-t-il, pour prendre le leadership international du dérèglement climatique.
Je ne sais pas si on prend le leadership ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'exit tax dont vous parlez, et surtout ces mesures qui visent à continuer à concentrer les richesses, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Mmh. Moi, il y a un truc qui me révolte. Un mec qui a 1 milliard sur son compte, il touche sans rien faire, s'il place son argent juste à 5%, donc mal hein, pour ces gens-là, il touche 150 000 balles par jour. Donc un mec qui a déjà un milliard continue structurellement, mécaniquement, de s'enrichir de 150 000 balles par jour. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des cadeaux à ces gens-là, et je ne comprends pas d'ailleurs que quelqu'un puisse accumuler plus de 20 milliards. Quoi. Enfin,
vous
même,
dites
même,
ça parce que vous n'avez pas un milliard sur votre compte.
C'est vrai, c'est vrai. Mais non,
ah,
mais
la
je
honte.
Pense... Non, non.
Il n'a pas un milliard.
Non mais, en fait, comme c'est vraiment le moteur de tout, le vrai problème, c'est que l'argent reste un objectif et continue d'être considéré aussi bien par les hommes politiques que par les entrepreneurs que par les médias comme un objectif et comme une preuve de, enfin, on a de la reconnaissance quand on est riche. Ben ouais, mais en fait, le vrai problème, c'est que c'est un moyen et que ça devrait redevenir un moyen pour que d'autres capitaux qui sont pas moins importants, que ce soit le capital naturel ou le capital humain ou social, puissent être enfin valorisé et qu'on puisse intégrer une analyse par trois capitaux. Je pense le capital naturel, le capital humain et bien sûr le capital financier. Mais,
On n'a plus aucun doute que vous ne soyez pas macroniste. Tout va bien. <C'est bon. rire> Et concernant le nouveau ministre de l'Agriculture, parce que vous avez rencontré le précédent, Stéphane Le Foll, vous avez des contacts avec Nicolas Hulot. Stéphane Travers, pour les fermes d'avenir, est-ce qu'il est encourageant? Est-ce qu'il est dans le dialogue? Est-ce que vous sentez
écoutez, que... Le dialogue, alors je vais faire une réponse assez diplomatique, mais le dialogue a été enclenché avec les états généraux de l'alimentation. Ça a eu au moins le mérite de mettre 70, alors dans chaque atelier, 70 personnes qui n'avaient pas l'habitude de se parler dans la même salle et de discuter pendant des journées entières. Donc ça a été intéressant de voir que les tenants du modèle dominant agricole chimique sont en train de, enfin, n'ont plus d'arguments. En fait, ils sont en train de dessiner les dernières branches d'un arbre auquel ils essaient de se raccrocher, mais ça s'effondre clairement. Donc ça, c'était bien. Le ministre en lui-même, il n'est pas très accessible, pour être tout à fait honnête. On a du mal à avoir des retours de ces équipes, ce qui ne nous empêche pas, nous, après ces états généraux, d'aller voir beaucoup de députés. Là, on est dans cette phase-là, puisqu'il y a la loi sur les états généraux, la loi sur l'alimentation qui est en train d'être débattue. Et donc, nous, on porte des amendements, on en a 14, et je me suis tapé une vingtaine de députés, là, déjà, pour aller leur porter ces idées-là, qui sont assez innovantes, je trouve, et nécessaires. Donc, il y a une ouverture globale
dans la porte, quoi.
Exactement.
C'est sûr. Et le ministère de Nicolas Hulot s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire. On ne voit pas très bien pour l'instant où est le solidaire, mais en tout cas, vous, c'est ce que vous faites avec Ferme d'Avenir, parce qu'il y a transition écologique et solidaire, puisqu'on voit bien, notamment dans le film On a 20 ans pour changer le monde, que certains réfléchissent aussi dans chaque ferme à accueillir un réfugié qui puisse aussi apporter son savoir-faire.
Oui, effectivement. Ouais. En fait, il y a beaucoup de migrants ou de réfugiés qui sont en fait des paysans à la base. Et on les parque là dans le 19e, dans des immeubles où ils sont totalement perdus, personne ne les regarde. Et ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire.
Alors qu'ils seraient très précieux. Et qu'ils ont plein de choses à nous apprendre.
On a monté le programme compagnonnage migrant, donc ou réfugié. Donc ça veut dire qu'on a des réfugiés qui, en binôme, vont partir avec des jeunes qui veulent se former et qui vont partir de ferme en ferme pendant un an.
Mais c'est formidable.
Allez voir ce que fait Ferme d'Avenir avec Maxime de Rostolan, qui est notre invité. Et tiens, puisque vous avez pris le micro, Rukyata, je vous le laisse. Allez-y.
Ça y est, c'est à moi. Alors, mes amis, comme vous le savez déjà, Bolloré a été mis en examen pour faire de corruption à Lomé et à Conakry. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que moi-même, j'étais à Conakry quand la nouvelle est tombée. Alors, je tiens à préciser aux auditeurs de France Inter que je ne suis pour rien dans cette affaire. Moi, si j'étais à Conakry, c'était juste pour jouer mon spectacle, tout simplement. Je ne suis même pas allée me promener du côté du port, hein. Bon, c'est vrai que d'une manière générale, je ne suis pas contre un peu de corruption. Une petite valise par-ci, un petit virement opaque par-là, j'aurais bien aimé même. Ça m'aurait aidé à mettre un peu de beurre de qualité dans mes épinards. En fait, j'ai moi-même fait des annonces là-bas, pour être honnête avec vous. Je marchais autour des bureaux de grandes entreprises françaises avec une pancarte où j'avais écrit « Corrompez-moi, corrompez-moi ». Mais rien, rien de rien, il ne s'est rien passé. Je regardais mon téléphone, je consultais mes mails, pas l'ombre d'une proposition malhonnête. Bon, mais regardez pas comme ça avec vos gros yeux là. Tout le monde sait que les chroniqueurs de France Inter sont particulièrement corruptibles. Personnellement, j'en connais deux qui vendraient leur âme pour deux pintes de bière belge.
On voudrait des noms, s'il vous plaît.
J'en connais même un qui vendrait l'âme des autres pour un steak de quinoa.
Donc, alors, donnez-nous des noms, s'il vous plaît.
Ah non, Alex.
Si, dénonciation, c'est un truc de français, ça vous intégrez-vous.
Alors, je ne suis pas une balance. Hein. J'ai une éthique, moi. Et vous savez d'où je viens? Du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bon, en même temps, pour un poulet bicyclette et une bonne braquinade bien frappée, ou une bonne flag. Vous connaissez la flag?
Oui.
FLAG, Front de Libération des Alcooliques de Gauche, comme ils disent au Sénégal. Chez nous, au Burkina, c'est plus simple. Hein. C'est Femmes Libres à Temps Garçon. Ah, la flag. Si vous saviez ce qu'on peut obtenir avec une flag. Par exemple, mon oncle, tu lui payes une bière en bouteille ou même une calebasse de Tchapalo, notre bière de mille là. Il te fournit des informations ultra sensibles. Il peut même te dire quel margouya est passé sur le mur de tel voisin à telle date. Il peut te dire à quelle heure le vieux Abou a déplacé son tabouret pour se mettre à l'ombre. Et avec une bière de plus, il peut te dire quel voisin visite quelle voisine secrètement et silencieusement à l'heure où dorme le poulet. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire que la corruption est généralisée sur mon continent. Ouais! Ouais, je ne peux pas le nier. Je suis personnellement allée dans des pays où la police est entièrement dévouée au bien-être des populations, moyennant une légère participation. Si tu tombes en panne, c'est eux qui poussent ta mobylette. Tu es perdu, c'est eux qui te raccompagnent chez toi. Il pleut, c'est eux qui mettent un parapluie sur ta tête. Bon, après, ils te tendent leur casquette et tu mets ce que tu veux. Si tu veux, tu ne mets rien. Enfin, si, tu es un peu obligé quand même. Mais pour finir, il y a une vérité qu'on oublie parfois sur la corruption. C'est que pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Nos dirigeants ne se réveillent pas le matin comme ça en se disant « Oh tiens, il fait beau aujourd'hui. Et si je me corrompais moi-même tout seul comme ça ?» Bon, en tout cas, comme dit toujours mon oncle, si un margouya achète un pantalon, c'est qu'il a trouvé où mettre sa queue. Bon, ce proverbe n'a rien à voir avec cette chronique, mais il me fait toujours marrer.
Merci, Roquetta Ouedraogo. À venir, Christine Gonzalez et puis Thomas VDB en notre compagnie sur France Inter.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Sur France Inter, où nous sommes en compagnie de Maxime de Rostolan, dont je vous conseille le livre « On a 20 ans pour changer le monde ». Et en dessous, il dit « Bonne nouvelle, c'est possible ».
Comment faire ? Ben, il faut lire le livre, évidemment. C'est paru chez Larousse. C'est le fondateur de Ferme d'Avenir. La permaculture, le biomimétisme. Découvrez ce que c'est si vous ne le savez pas encore. Et puis, pour entourer Maxime.
Eh bien, Rukyata a déjà bossé. Thomas VDB, il va bosser. Frédéric Froimet, il prépare sa guitare pour bosser.
Et donc là,
il nous manque Christine Gonzalez qui, bah, c'est à vous de bosser maintenant.
Oui, mais c'est reportage.
Ah, oulala, investigation.
Oui, absolument. Je vais vous emmener en duplex et en direct à l'inauguration d'un nouveau bistrot à la mode dans l'au-delà. Alors, ça s'appelle simplement le bar de la mort qui tue. Je vous y emmène parce que plein de gens célèbres y sont présents, évidemment. Plutôt des fêtards, logiquement. Alors, on y va, j'entre.
Ah ouais, ambiance.
Oui, j'entre dans le bistrot qui est assez rempli. Un homme au piano, au fond. Ah oui, c'est Serge Gainsbourg au piano.
Ça, c'est pour le Figaro Magazine.
Ouais. Vous allez bien, Serge ?
Suis-je en deçà ou en delà ?
Ah, vous êtes dans l'au-delà, aucun doute.
I agree, j'accepte.
Serge Gainsbourg, c'est assez émouvant de vous retrouver derrière ce piano dans un bar comme à vos débuts.
Je sais bien que les locks, c'est bourré. Moi pas. Hein.
Ouais. Ouais, bon, alors je vous propose de laisser Serge Gainsbourg jouer tranquillement, d'autant plus que juste derrière lui, une table réunit pas mal de personnalités. Je crois que... Mais incroyable, hein. L'écrivaine Françoise Sagan, c'est bien vous ?
Oui.
Tout se passe bien depuis votre mort ?
C'est pas de la mort est une fin normale en soi.
Oui. Et là, vous êtes en train de boire un whisky.
Double.
Double. Évidemment.
J'ai plus l'âge de jouer les petites filles.
Oui, bah oui. Et contrairement à d'autres ici, apparemment, vous tenez parfaitement l'alcool. Hein.
La chance que j'ai eue, c'est effectivement de commencer très tôt
à boire.
Oui. Ouais.
Et vous êtes très bien entouré, vous avez plein de copains autour de vous.
Non, j'ai de très bons amis, et des aventures et des histoires, je m'amuse beaucoup. Moi, ça, je ne suis pas quelqu'un de seul.
Et je vois qu'à votre table, il y a même Johnny Hallyday, alors je ne vais surtout pas le déranger, c'est un peu tôt peut-être, il a l'air très très occupé. Bah, ça va, il vous saoule pas trop avec ces questions d'héritage ?
Je compte me résigner. Ouais.
Et Laetitia lui manque pas trop ?
Pas follement, non.
Dites Françoise... vous avez remarqué que Gainsbourg, au piano, il n'arrête pas de vous fixer ?
Non.
Ah si, croyez-moi, il vous mate là. Et... Bon, enfin, en même temps, il n'est pas... Comment vous dire ça ? Il est un peu éprouvé par le temps, un peu décati.
Décati, non. Oh non, il est bel homme.
Ah, il vous plaît ?
Ah oui, beaucoup. J'ai un faible.
Ah. Ah bah là, il est en train de vous faire le coup de « Je t'aime, moi non plus ».
Vous m'allez belle, ma petite Camille. Hein ?
Voilà, je sens que je dérange. Je vous laisse discuter un peu tous les deux, tranquillement. Moi, je m'éloigne. Voilà, nous sommes, hein, je le rappelle, pour les auditeurs, en direct de l'inauguration du bar de la mort qui tue, avec pas mal de célébrités disparues. Il y a un serveur qui s'approche de moi.
L'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui.
Ouais, alors, on le connaît, c'est Bourville.
Alors.
Bonjour.
Hein ?
Ouais, ça va, merci. Je cherche juste à m'asseoir.
Alors, suivez-moi.
Alors, on vous suit, je le suis. Ah, il titube, oui. Ouais. Alors là, il dit bonjour au client.
Il est salutaire, oui.
Oui, voilà. Il me fait m'asseoir, oui, je m'assieds, oui, oui. À côté d'une autre cliente. Bonsoir.
Ça va ?
Oui, ça va, et vous ? Mais je vous reconnais. Vous êtes sœur Emmanuel ? Oh, qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous buvez ?
L'asti spumante.
Vous avez l'air pompette.
Yalla.
Ah, il est carrément sympa, ce bar. Hein.
J'ai jamais autant rigolé. Ouf.
Et votre Dieu, il est OK avec ça ?
Je crois que Dieu est amour. Bon.
On m'informe en régie que Laurent Wauquiez vient d'écrire un message. Il nous demande de bien vous saluer de sa part.
Espèce de chameau.
Enfin, Dieu est amour, c'est quand ça vous arrange. Ma sœur, excusez-moi, il y a une femme, je crois que c'est Margaret Thatcher, qui vous fait des signes là-bas.
Je suis là, ma bien-aimée.
Ah, puis elle vous fait des cœurs avec les doigts. Mais elle est complètement bourrée, par contre. Hein.
Quand on est alcoolique, c'est pas une cure qui vous guérit.
Ah ouais, puis elle en tient une sacrée couche. Hein. Elle s'est lâchée avec les années, celle-là. Hein.
Ah, naturellement.
Ah, il y a Bourville qui revient.
Hein ?
Ouais, ça va. Je vais devoir retourner chez les vivants. Un dernier mot pour nos auditeurs.
Il faut vivre, mais il faut pas... sans faire.
Oui, ouais, voilà. Eh ben, au revoir. Voilà, c'est ça. Écoutez, Charline, je vais quitter ce bar qui commence à être très très plein, si j'ose dire. Et je conclurai ce reportage en citant notre invité d'aujourd'hui, Maxime de Rostelan, qui a dit que tout est possible si on remue ciel et terre, surtout la terre. Eh bien, moi, je préfère penser que tout est possible si on remue ciel et terre, mais surtout le ciel.
Merci, Christine Gonzalez. Dis donc, ça a l'air chouette là-haut.
Ouais. Oh, ça me rend tout à fait sereine.
C'est vrai, moi aussi. Merci, Christine Gonzalez, et merci d'être venue de Suisse un jour où c'était difficile.
Parce que je le veux bien.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de trains, en effet. Merci beaucoup, Christine Gonzalez de la RTS. Restez avec nous, avec Maxime de Rostelan, le fondateur de Ferme d'Avenir. Parlons de ces bobos qui ont franchi un nouveau cap en partant s'installer à la campagne pour y cultiver leur jardin. On les appelle, paraît-il, les bourrus, c'est-à-dire les bourgeois ruraux, ces urbains qui finissent par venir planter des choux et deviennent ce qu'on peut appeler aussi des néo-ruraux.
Non, si vous voulez, là-bas, c'est tout à fait une autre façon de vivre. On trouve les vrais rythmes, la vraie valeur des choses simples. Il n'y a plus d'agressivité, plus de conflits, tout est facile, tout est cool.
C'est le péril jeune.
Non, c'est assez exceptionnel comme truc. Très enrichissant. Moi, je sais que si on a des enfants, Christine et moi, je leur conseillerais cette expérience.
Oh, moi, j'aurais peur de la drogue. Cet été à Cavalère, on a vu des jeunes dans un état. C'était affreux.
Mais la drogue, là-bas, c'est le grand air, c'est l'eau de source. Non, mais tout est une question de bouffe, finalement. Quand tu cultives ta carotte toi-même, tu la manges pas pareil.
C'est les babacools. Ouais. Film de François Le Terrier qui date de 81. Maxime de Rostelan, vous étiez plutôt urbain et vous n'aviez jamais planté une tomate.
C'est vrai.
Et puis c'est la lecture d'un livre qui a été une forme d'illumination, pas que j'imagine.
Ouais, je ne sais pas exactement quel est le chemin qui m'y a amené, mais ma sœur qui était aussi parisienne à 17 ans a décidé d'être agricultrice bio, ce qu'elle est devenue. Ouais. Donc elle avait quelques années d'avance sur moi dans cette réflexion. Et moi effectivement le bouquin de Janine Bénus qui s'appelle Biomimétisme et qui explique comment la nature peut nous inspirer dans tous les domaines de la société, que ce soit les transports, la santé, la gestion des entreprises, pourquoi pas, et l'agriculture. Et en fait elle fait de l'agriculture le premier chapitre de son bouquin et elle dit si on veut vraiment changer de paradigme, alors l'alimentation, l'agriculture, c'est le premier, c'est le socle, la première brique sur laquelle ériger le nouveau modèle. Et donc c'est là que je suis. Il y a un chiffre en fait, c'est l'histoire de l'efficacité énergétique pour se nourrir aujourd'hui. En 1940, avec une calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. Aujourd'hui, il faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. Donc on mange du pétrole. Ça fonctionne tant que le baril vaut $50. Ouais. Le jour où il vaut $200, on sait plus se nourrir. Donc c'est vraiment, il y a urgence à changer de modèle. Et par ailleurs, il y a une autre urgence qui est le renouvellement des générations. Il y a la moitié des agriculteurs qui sont en âge de partir à la retraite d'ici 2025. Mm-hmm. Et ils vont le faire. Enfin, je le leur souhaite. Ah, oui. Et donc il va falloir les remplacer.
Et justement, ces gens qui viennent de la ville puis qui ont une prise de conscience et qui ont envie de changer de vie, j'imagine qu'ils ne sont pas nombreux, mais est-ce que vous en croisez des parcours comme le vôtre ?
Alors, moi, mon parcours est un peu singulier parce que je ne suis pas vraiment maraîcher. Enfin, j'ai fait un an et demi les mains dans la ferme, mais depuis, je développe l'association et les projets. Mais en fait, on dit que 50% des porteurs de projets qui aujourd'hui comptent s'installer sont des néo-ruraux, donc des NIMA. Vous avez dit, je ne connaissais pas bourru, hein, mais oui. NIMA, non issus du monde agricole, hors cadre familial. Enfin, y a plein d'appellations pour eux. Et ils représentent 50% des jeunes qui veulent s'installer. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'ils veulent s'installer sur des modèles agroécologiques. Ils n'ont évidemment pas envie de passer leur vie sur un tracteur et épandre des produits chimiques.
Et quand on n'a pas beaucoup de place, parce que la terre, ça demande une propriété où c'est parfois compliqué, se développe aussi l'agriculture urbaine. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, faire pousser des patates à la verticale?
Alors, on peut faire pousser des patates à la verticale. On a fait des tours à patates. Si, vous pouvez faire des tours à patates.
Dans mon 31 mètres carrés.
Ouais, bah, sûr. Vous prenez un mètre carré, vous mettez du compost, de la paille et vous mettez les patates dedans. En revanche, il ne faut pas faire croire que l'agriculture urbaine va nourrir la planète.
Non, hein.
Soyons sérieux. Ça a plein d'avantages. Ça reconnecte les gens avec la nature. Ça rappelle le rythme des saisons. Si jamais le jardin est collectif et partagé, il peut y avoir des liens sociaux qui se créent. Mais clairement, il y a 200 hectares végétalisables à Paris. On est passé à côté d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes qui allait bétonner 800 hectares. Mm-hmm. Donc, et pour pas les mêmes investissements, parce que pour végétaliser 200 hectares à Paris, enfin, faut mettre pas mal de cash, quoi.
Nous, on part peut-être s'installer en Toscane avec Alex et Guillaume dans quelques années. On n'a jamais planté une tomate non plus.
Non, mais faites de la vigne là-bas.
Plutôt de la vigne. Ah, voilà. C'est une bonne idée, ça. Mais c'est pas très compliqué. On peut, en lisant bien votre bouquin et tout.
Mon bouquin n'est pas un tutoriel.
Ça donne envie,
Il y a évidemment pas mal de. Enfin, c'est du bon sens. Hein. C'est travailler avec la nature, c'est du temps. On dit qu'en maraîchage, il y a 100 leçons, c'est une par an. Bon, donc du coup, on peut considérer que dès la cinquième leçon, vous savez à peu près faire... Enfin, vous...
Moi, j'avais regardé La Ferme Célébrité il y a quelques années. Ouais. Et je trouvais que Pascal Olmeta, c'était alors, bien émerdé.
Admettons qu'on ait quelques auditeurs qui sont à, presque en train de basculer et de se dire je tente très bien, ou pour ma retraite, ou même de... ils sont peut-être pas nombreux, mais peuvent se tourner vers Ferme d'Avenir pour aussi pour savoir...
Alors, nous, on peut accompagner, comment... on accompagne des porteurs de projets, mais il y a, ouais, encore une fois, beaucoup d'acteurs sur les territoires qui le font. Le premier réflexe à avoir, c'est déjà d'aller dans une ferme, c'est d'aller passer du temps. Alors c'est le woofing, où il y a pas mal d'accueils à la ferme qui peuvent vous permettre de découvrir, et l'idéal c'est quand même de passer une saison pour savoir que si c'est un métier qui vous convient.
Effectivement.
Mais après il y a beaucoup d'acteurs sur les territoires qui sont là pour ça et qui accompagnent. Le parcours d'installation d'un agriculteur est très compliqué, semé d'embûches, et c'est d'autant plus compliqué quand on n'a pas l'héritage paysan, c'est-à-dire quand on vient de la ville. Et donc nous on a inventé un concept, on a appelé ça le métier de paysculteur. C'est une personne qui va aider des projets alimentaires territoriaux à voir le jour. Il va catalyser un petit peu ces dynamiques, parce qu'on le sait, les cantines scolaires veulent du bio local, mais il n'y a pas l'offre. Donc du coup, il faut aider l'amont et l'aval à se relier. Il faut aider les propriétaires fonciers et des financiers. En gros, là, il y a un gros chantier participatif à faire pour relier toutes les compétences qui sont nécessaires à ce vaste projet.
Et pour changer le monde, il vous reste 20 ans, donc. Il nous reste 20 ans. Thomas VDB.
C'est moi.
C'est parti, c'est son retour.
Actualisique. Actualisique.
Ouais.
C'est l'actu. L'actu des justiciers. Actualisique. Ne crains rien, ils nous protégeront. Voilà,
ouais,
c'est le générique d'intro.
Ça nous avait manqué.
Parce que moi, je voulais, comme je l'ai dit tout à l'heure, parler d'une nouvelle façon de faire régner la justice aujourd'hui. Découverte tout récemment avec les membres de Génération Identitaire qui sont allés bloquer l'arrivée de réfugiés, qui tentaient de passer par les Alpes pour gagner la France. On l'a redécouvert il y a quelques jours avec les Black Blocs qui sont allés tout casser à côté de la gare d'Austerlitz. Voilà, ce qui se passe, je pense, c'est qu'aujourd'hui, quand t'es pas content de comment les choses se règlent, la meilleure chose à faire, c'est de régler les choses toi-même. Essaie de monter ton propre groupuscule. Tu montes ton groupuscule et bim, tu vas faire régner la justice. T'inventes un code vestimentaire, les Black Blocs ils sont tous en noir, Génération Identitaire ils étaient tous en doudoune bleue, et après je peux te dire que pour faire régner la justice t'es fin prêt, et c'est grisant, tu peux faire la loi, oui ça c'est pas mal. C'est pour ça que moi je donne rendez-vous chez moi demain, samedi à 14h, et si on a que ça dit, je monte mon groupuscule, et alors on se retrouve tous chez moi en peignoir rouge, en kimono marron. Et alors je vous dis, moi il y a un truc qui me fout en l'air, c'est les piétons qui traversent en dehors des clous. Ça me révolte. Alors ce qu'on fait samedi, on met nos kimonos, on va en vélo dans la rue, et dès qu'on voit un piéton qui traverse en dehors des clous, boum, on le pousse et on y roule sur sa gueule. Et on y roule sur sa gueule parce que la loi c'est la loi, je suis désolé, et s'il n'y a personne pour la faire respecter, je peux te dire que nous les Kicker Boys on va la faire respecter. Mais parce qu'il faut choisir un nom aussi quand tu montes ton groupuscule, et j'avoue que le nom Black Blocs je le trouvais pas mal, mais il était déjà pris, j'aime bien parce que ça fait un peu nom de paire de baskets en série limitée. Elles sont bien tes Black Blocs. Je les ai achetées au magasin de sport, voilà. Alors, en tout cas, comme on vient de l'entendre, on note une nette prolifération des clubs de justiciers en 2018. On sent bien que ces derniers temps, Avengers et Gardiens de la Galaxie, c'est un peu monté au ciboulot de beaucoup de nos compatriotes quand même. Il faut leur dire, les gars, ce qui se passe dans ces films, en vrai, ça se passe pas dans la vraie vie. Hein, ça se peut pas. Ne venez d'ailleurs pas chez moi samedi avec un kimono ou une cape, j'ai pas de groupuscule.
Oh, merde.
Hein, je vous le dis. D'ailleurs, les images qu'on a vues de Génération Identitaire ou des Black Blocs, c'est vrai qu'elles font peur. Je rassure tout le monde, n'oublions pas que c'est quand même juste de la communication. Hein, les Black Blocs, c'est vrai qu'ils ont cassé un McDo hier à Paris, c'est pour le symbole. Hein, l'action McDo va pas s'effondrer. Hein, le patron de McDo, il va pas partir en dépression juste à cause des Black Blocs. Non, garde Austerlitz ! Oh les salauds ! Oh les salauds ! C'est bon, on arrête alors ! C'est bon, on met la clé sous la porte, on arrête McDo, c'est ça qu'ils veulent ! Voilà, je pense pas qu'il va faire ça le patron de McDo. Pareil pour Génération Identitaire, qui ont envoyé des images hallucinantes de leur opération coup de filet dans les Alpes, tous habillés en doudoune bleue, hein, comme je disais. Alors déjà, je sais bien qu'en termes de look, bon, c'est vrai, j'avoue, moi j'ai pas de leçon à donner à quiconque, mais c'est vrai que quand même, quand t'as John Galliano dans ton camp, tu t'habilles pas en doudoune quand même.
Mais pardon, mais pour moi, je veux dire, puis désolé, mais pour moi, une doudoune, c'est pas la France. C'est pas ça la France, les gars. La doudoune, c'est pas la France. Si tu veux résister à l'envahisseur en France, eh ben tu mets pas une doudoune, tu mets des braies, des bretelles et tu te coiffes avec des tresses. D'ailleurs, les gars, ils se battent, c'est vrai, pour le retour au franc. Pour moi, c'est pas cohérent. Ils devraient se battre pour le retour au sesterce. Voilà. Alors, je sais pas. En tout cas, si vous avez vu ces images qu'on postait Génération Identitaire, à un moment, on voit un membre de Génération Identitaire qui bloque la route à un migrant et le migrant fait demi-tour dans la montagne. Et j'imagine que le caméraman de Génération Identitaire, il a filmé ça. Il a dit, oh, j'ai des images de dingue. C'est trop symbolique, c'est. Alors, je veux pas les contrarier. J'ai du mal à croire quand même que le migrant est reparti à pied jusqu'à la Méditerranée pour prendre un bateau et ramer en disant, ah, ça foiré dans la Génération Identitaire, putain. Je pense qu'à mon avis, le gars, il a contourné un bosquet. Il est rentré en France 50 mètres plus loin. Je veux pas aller. Désolé, mais... D'ailleurs, je vous le dis, moi, franchement, prochaine fois que Génération Identitaire, ils organisent un gros coup de filet comme ça dans les Alpes pour bloquer l'accès aux réfugiés, ce que je fais, moi, je demande à tous mes potes noirs ou arabes avec leurs papiers en règle d'aller se promener dans la montagne, comme ça, d'essayer de passer la frontière, comme ça, dès que les gars Génération Identitaire, ils seront complètement paumés, les gars Génération Identitaire. Ils sont, toi, tu rentres pas, et l'autre, tu dis, oh, moi, c'est bon, j'ai mes papiers, je rentre. Ah, mais non. Bon, les gars, ceux qui sont en règle, vous mettez là, tu rentres pas compris, vous mettez là. Et ils seront complètement largués. Voilà, c'est un régal. En tout cas, moi, je voulais dire une chose, c'est qu'à l'heure où la haine semble s'organiser un peu partout dans le monde, heureusement aujourd'hui, il reste un pays duquel émerge une lueur d'espoir. Un pays dont on devrait certainement s'inspirer, et je parle bien sûr de la Corée du Nord. La Corée du Nord, qui est un endroit où ça fleure bon la paix en ce moment. En seulement 2 mois, Kim Jong-un est devenu le John Lennon du Pacifique. C'est pour ça que j'ai décidé, moi aussi, de mener une action. Je propose demain à tous les gens qui sont de mon avis, on se retrouve à 17h, on va chez le coiffeur, mon pote, et pour montrer qu'on fait partie du groupuscule à Kim Jong-un, on fait tous la même coupe de cheveux que lui. Voilà, et voilà, ce sera un peu dur à assumer, mais c'est ce que je propose de faire.
Merci
à
tous. Merci Thomas, VDB. Qu'on peut se retrouver en vidéo mouliné avec ses petits bras comme ça.
J'ai tellement perdu 2 kilos, je pense.
Maxime de Rostelan, des fermes d'avenir. On va aborder ce troisième sujet aussi. C'est demain matin, la visite du Palais de Tokyo est réservée aux naturistes. La centaine de billets s'est envolée en une matinée pour visiter le musée tout nu. Mais qui fait partie de ce public à la recherche de sensations artistiques?
À poil le bébé, à poil la baby-sitter, à poil les voisins, à poil la mamie, à poil le chien, à poil la maîtresse. Vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. À poil la chanteuse, nous avons à poil le docteur, à poil le président directeur général. Bah oui, bien sûr.
Jean-François Copé, donc nous sommes toujours sans nouvelles. Maxime de Rostelan, vous êtes tenté, vous, par le naturisme?
Pas forcément, mais tout ce qui peut relier à la nature et à...
Ouais. Vous voulez pas faire le tour du pot avec cette question.
Ce qui est amusant, c'est que le naturisme, là, c'est pas dans la nature, c'est dans un musée.
Ouais, c'est donc ça qui... En lisant le sujet, je me disais, mais pourquoi on le ferait pas dans des fermes, quoi? C'est rigolo, on peut faire des super calendriers, des super fêtes. Tous nus dans
les
fermes.
Puis dans les ronces, c'est pas désagréable.
C'est pas du naturisme, c'est une expérience artistique. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que, je pense que l'idée, c'est que le public s'intègre à l'œuvre en elle-même, parce qu'on en a déjà vu depuis la sculpture antique des gens nus. Ouais. Mais là, l'idée que les gens s'observent en train d'observer justement des œuvres, il y a quelque chose qui tient du happening global dans lequel le public est intégré.
Ouais, je pensais que c'était de la com, je suis con.
Ouais, moi aussi.
Sans doute aussi, mais comme l'histoire de l'art contemporain depuis bien avant Warhol.
Je me doutais que vous aurez qu'à
les mettre. Mais non, mais vous dites du naturisme que c'est pas les nudistes, quoi. Vous voyez, c'est pas mon curé chez les nudistes.
Ah bah d'accord.
Bon, en tout cas, vous êtes dans une ferme. Tous ceux qui se sont inscrits, s'il n'y a plus de billets, vous pouvez venir dans une ferme.
Ouais. Maxime de Rostelan, derrière vous, il y a aussi un dangereux Khmer vert.
Habillé, malheureusement.
Frédéric Fromet.
Bonjour.
De quoi allez-vous nous chanter, Fred?
Eh bien, cette semaine, un technicien a été agressé en pleine installation du compteur électrique Linky, ce qui prouve bien, au moins sur ce point, la dangerosité du machin. Il était où le gentil Tilinky? Où il était le compteur beau comme tout? Il était où, hein? Il était où? Où il était le compteur tout joli? Et qui c'est-il, pigeon à la boîte? Linky sait bien où il est son pigeon. Il était où, hein? Celui qu'on mate, celui pour qui Linky est un espion. L'intimité c'est quoi? C'est dépassé. Qui c'est-il le pigeon? Bah c'est nous tous. Elle était où, hein? Ta vie privée, est-ce que t'entends ce qui t'épique qui glousse? Il était où, hein? Le Linky. Il était où le Linky qui voit tout? Il était où, hein? Le Linky. Le gentil espion, il était où? Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça? Où c'est qu'il était le Link? Il était dans ton logis, ta vie, le compteur dit intelligent, les cons, c'est nous évidemment. Qui ça, hein? Qui ça? Qui ça, hein? Qui ça? Il était là, le Linky Choupinou. Il était là, le plus beau des Linky. Il était là, qui? Le beau joujou? Celui qui voit quand tu as fait pipi. Et c'est à qui tout ça? C'est à Linky. À qui s'est-elle étonnée recueillie? Le gros mouchard, hein? C'était qui? C'est qui demande pas ton avis? C'est qui nous harcèle? C'est Enedis, ERDF qu'on a débaptisé. Le changement de nom, c'est un indice quand il s'agit de mieux nous entuber. Mais qui c'est-y, hein? C'est Enedis, qui n'aura plus jamais à se déplacer. Mais qui c'est-y, hein? C'est Enedis, qui à distance n'aura plus qu'à cliquer. C'est qui, hein? C'est qui? C'est qui, hein? C'est qui? Déshumanisé, c'est pas bien, Enedis, tout nous fout les boules. On ne fait pas électricien quand on craint de se faire des ampoules. C'est qui, hein? C'est qui? C'est qui, hein? C'est qui? Et qui c'est-y, hein? C'est qui? Est exposé, manipulé, tracé. Et qui c'est-y, hein? C'est qui? Est espionné, classé, fiché, noté. C'est qui, hein? C'est qui? C'est qui, hein? C'est qui? C'est qui paraît inutile? C'est qui nous est imposé? A-t-on besoin à domicile d'une nouvelle machine à cafeter? C'est qui, hein? C'est qui? C'est qui, hein? C'est Linky.
Merci, Frédéric Fromé. Et comme ça, je peux dire à Enedis qui m'appelle tous les jours que moi, j'en veux pas, c'est pour ça que je réponds pas.
Ouais, voilà, pareil, parce que,
il m'appelle tous les jours, je sais plus quoi faire, là, mais j'en veux pas, voilà, c'est tout, c'est simple. Merci Frédéric Fromé. Et merci beaucoup à Maxime de Rostolan d'avoir passé ce moment avec nous, le fondateur de Ferme d'Avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager Ferme d'Avenir?
Ah bah, encourager le mouvement dans son ensemble, c'est avoir des bonnes pratiques de consommation, bien sûr. Et puis si jamais vous voulez épargner, j'ai aussi monté Bluebees, une plateforme de financement participatif sur laquelle vous pouvez prêter à des entrepreneurs qui œuvrent dans cette mouvance-là. Et en plus, on paye 2% d'intérêt, ce qui est 4 fois plus que le livret A. Voilà.
Et puis, je vous rappelle qu'il y a le livre « On a 20 ans pour changer le monde » paru chez Larousse de Maxime de Rostolan. Et le film d'Hélène Médigue « On a 20 ans pour changer le monde » qui est déjà en salle.
Avec une super musique de Christian Olivier des Têtes-Raides, qui est mon idole aussi au passage.
D'accord. Très bien. Et je rappelle aussi que Rukyata Ouedraogo est au théâtre du Lucernaire les jeudis, vendredis, samedi jusqu'au 2 juin, n'est-ce pas, Rukyata? Merci les amis, Thomas VDB, Christine Gonzalez, Alex.
À lundi.
Merci beaucoup à toute l'équipe, à Marion Lelay, à la réalisation, à Sarah Masson, Nathalie Romero, Alexia Lacour, à la préparation avec Mathias Volant. Merci beaucoup à Antoine Asdé pour les blagounettes et à Elisabeth Collet pour la technique. Et puis en vendredi, nous serons en direct et en public du studio 105 avec Brigitte Fossé. Vous pouvez réserver vos places sur le site maisondelaradio.fr. Merci à tous. Le mot de la fin au président de la République qui rassure encore les riches dans le magazine Forbes.
Espèce de chameau.